Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 12 juin 2024. Le sommet du G7 débute demain, jeudi, et ce sera en Italie. Au Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken estime que certaines demandes du Hamas sont irréalistes, mais les négociations continuent. Expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda, Kigali accuse le Haut Commissariat aux réfugiés de mentir. Le monde musulman se prépare à la fête de la Tabaski, symbolisant le sacrifice d'Abraham.
Franchement, cette année, c'est un peu délicat. On voit que les moutons sont un peu plus chers que les précédentes années. Bon, voilà, mais on essaie avec les petits sous qu'on a.
Reportage à suivre au Mali et au Burkina Faso dans la partie magazine. En Afrique du Sud, le parti Umkhonto Wesizwe conteste les résultats des élections. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le président Joe Biden se rend en Italie pour participer au sommet du G7. L'homme de son prédécesseur Donald Trump va planer sur cette rencontre qui va se tenir jusqu'à samedi. Rosine Monezero.
Le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vont signer un accord de sécurité bilatérale en marge de ce sommet du G7 demain en Italie, a annoncé Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale. L'administration Biden pousse pour que les pays du G7 s'accordent sur un projet américain visant à pérenniser l'aide à l'Ukraine en utilisant les bénéfices tirés d'actifs russes confisqués. Le projet verrait les États-Unis avancer 50 milliards de dollars sous forme de prêts à l'Ukraine, mais qui pourrait être annulé par un Donald Trump s'il revient à la Maison-Blanche. L'Italie, pays hôte, veut faire de l'intelligence artificielle un des thèmes du sommet, notamment ses impacts sur le marché de l'emploi. La première ministre Giorgia Meloni a déclaré en avril que la présence du Saint-Père pourrait apporter une contribution décisive. Avec cette invitation inattendue, François, leader spirituel et chef d'État, va disserter vendredi avec les dirigeants réunis dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Ce sera la première participation d'un pape à un tel événement qui se termine samedi prochain.
Les États-Unis travaillent avec les autres pays médiateurs pour parvenir à une trêve à Gaza, déclare le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a ajouté que les demandes du Hamas ne sont pas toutes réalisables. Les précisions de Nani Talani.
En visite de consultation au Qatar sur la réponse du Hamas, M. Blinken a estimé que le mouvement islamiste palestinien aurait pu donner un oui clair et simple. Parmi les demandes du Hamas, certains changements sont réalisables, d'autres ne le sont pas, a dit M. Blinken, sans fournir de détails sur les demandes du Hamas. Le premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, a reconnu que l'une des principales divergences entre Israël et le Hamas porte sur la question de savoir si un cessez-le-feu serait temporaire ou permanent. La proposition américaine prévoit une trêve de 6 semaines qui serait prolongée jusqu'à ce que les négociations aboutissent à un règlement plus permanent. Aussi, le secrétaire d'État américain a estimé qu'un accord de cessez-le-feu à Gaza aurait un effet majeur sur la réduction des tensions à la frontière israélo-libanaise. Le Hezbollah a lancé mercredi une pluie de roquettes sur le nord d'Israël pour venger la mort la veille d'un de ses commandants militaires dans une frappe israélienne sur un village dans le sud du Liban.
Au Koweït, au moins 49 personnes sont mortes ce mercredi dans l'incendie d'un bâtiment servant à loger près de 200 travailleurs étrangers, selon un nouveau bilan revu à la hausse annoncé par le ministre koweïtien de l'Intérieur. L'incendie dans la banlieue de Mangav, située au sud de la capitale, a également fait une quarantaine de blessés, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Afrique du Sud, le parti nationaliste Zulu Inkatha, qui dispose de 17 sièges sur 400 à l'issue des législatives sud-africaines, va s'allier à l'ANC au pouvoir, qui a perdu sa majorité historique pour former un gouvernement de coalition. Les pourparlers entre différents partis se poursuivent avant la dernière session du Parlement, prévue vendredi, au cours de laquelle sera élu le président de la République sud-africaine. Cela dit, le parti de Jacob Zuma, devenu troisième parti du PU, veut empêcher la tenue de la première session du nouveau Parlement.
Le parti Umkhonto Wesizwe de l'ancien président Jacob Zuma a déclaré qu'il va faire appel devant la justice pour empêcher la réunion du nouveau Parlement dans l'attente d'une autre plainte sur des irrégularités électorales présumées. Permettre à l'Assemblée nationale de siéger au milieu de doutes importants sur la validité juridique du processus électoral serait une trahison de la confiance de l'électorat, a déclaré le porte-parole du député Lamluo Ndela. Le parti de Zuma est arrivé troisième en remportant 14,6% des voix et donc 58 sièges dans le futur Parlement. La semaine dernière, l'ANC a déclaré qu'elle a contacté à plusieurs reprises MK pour des pourparlers de coalition, mais n'avait reçu aucune réponse. MK avait déclaré plus tôt qu'il ne soutiendrait pas un gouvernement dirigé par l'ANC si Ramaphosa restait à la barre, mais l'ANC envisage de le garder. Zuma et Ramaphosa sont divisés par une amère rivalité depuis que le premier a été évincé par son propre parti à la suite d'allégations de corruption en 2018 et remplacé par Ramaphosa.
En RDC, plus de 80 personnes ont été tuées dans un accident de bateau sur la rivière Kwa, dans la province de Maïndombé, a annoncé aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. Les accidents de bateaux mortels sont fréquents dans les eaux du Congo où les navires sont souvent chargés bien au-delà de leur capacité. Le président de la République demande qu'une enquête soit menée sur les causes réelles de cet incident malheureux. Le Rwanda a réagi à une déclaration du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur l'envoi des demandeurs d'asile de la Grande-Bretagne vers ce pays. Kigali estime que l'Agence des Nations Unies a menti lorsqu'elle a déclaré que les demandeurs d'asile pouvaient être envoyés dans des États où ils risquent d'être torturés ou tués. Alexandrine Ollongon.
Le HCR ment, a déclaré le porte-parole du gouvernement rwandais dans un communiqué publié mardi en fin de journée. Le gouvernement rwandais a déclaré que les cas soulevés par les avocats du HCR devant les tribunaux concernent des personnes arrivant au Rwanda qui ont un statut légal dans d'autres pays mais ne remplissent pas les conditions d'entrée ou des personnes quittant volontairement le Rwanda. La Grande-Bretagne a déclaré la semaine dernière que le premier vol vers le Rwanda va commencer le 24 juillet. Les avocats du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont déclaré lundi devant un tribunal britannique que le système d'asile du Rwanda est inadéquat. Selon ces avocats, l'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda les expose au risque d'être à nouveau transférés dans le cadre d'un processus interdit et connu sous le nom de refoulement. Leur déclaration s'appuie sur des preuves passées qui ont constitué une partie du raisonnement de la Cour suprême du Royaume-Uni lorsqu'elle a statué l'année dernière que le plan britannique était illégal.
Au Kenya, le procès d'un ancien officier de police accusé d'avoir abattu deux adolescents non armés en plein jour il y a 7 ans, surnommé le flic tueur par les médias kenyans, Ahmed Rashid, a été filmé en train de tirer sur les deux jeunes gens alors qu'ils étaient allongés sur le sol dans une rue animée de la capitale, Nairobi. C'était le 31 mars 2017. L'incident a déclenché des manifestations dans ce pays d'Afrique de l'Est où la police est redoutée et fait l'objet de fréquentes allégations d'exécutions extrajudiciaires, mais est rarement condamnée. Le gouvernement du Malawi a déclaré aujourd'hui que le vice-président Solos Chilima serait honoré par des funérailles nationales après sa mort dans un accident d'avion avec 8 autres personnes. Le président Lazarus Chakwera avait déjà annoncé 21 jours de deuil national mardi lorsque l'épave du petit avion militaire transportant M. Chilima et une ancienne première dame a été découverte dans une zone montagneuse du nord du pays. Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays d'Afrique australe pendant la période de deuil. Au Nigeria, à l'occasion de la journée de la démocratie, ce mercredi, le président Bola Tinubu a annoncé les réformes économiques, a annoncé que les réformes économiques se poursuivraient malgré les difficultés croissantes qui ont alimenté la colère de l'opinion publique et a promis d'envoyer bientôt un projet de loi au Parlement pour fixer un nouveau salaire minimum.
Arrivé au pouvoir il y a un an, M. Tinubu a supprimé une subvention au carburant et dévalué la monnaie, ce qui a eu pour conséquence de provoquer l'inflation à 33,69% en avril, le niveau le plus élevé en près de trois décennies, et a érodé les revenus. Et puis enfin, au Mali, la coalition d'opposants Synergie d'Action pour le Mali s'est alarmée aujourd'hui de l'enlèvement par des hommes non identifiés d'un activiste qui avait filmé une manifestation dans la capitale malienne. Selon un communiqué, la junte au pouvoir depuis 2020 muselle les voix critiques et avait interdit en mars les activités de Synergie. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, envisage de retarder la livraison de 350 000 tonnes de fèves à la saison prochaine en raison de mauvaises récoltes. Cela témoigne d'une nouvelle détérioration des perspectives de l'industrie mondiale du chocolat. Les chocolatiers du monde entier augmentent déjà les prix pour les consommateurs, la valeur du cacao ayant plus que doublé suite à une troisième année de mauvaises récoltes au Ghana et en Côte d'Ivoire, responsable de 60% de la production mondiale. Au Nigeria, les producteurs et vendeurs des tissus traditionnels Yoruba Adiré se disent menacés par la concurrence chinoise. Ils déplorent aussi la crise économique qui secoue le pays et empêche la population d'avoir assez d'argent pour s'offrir ces tissus. Pour tenter d'aider cette industrie textile, Abuja a annoncé en 2023 l'attribution de 200 magasins à 400 commerçants à des tarifs réduits dans le grand marché d'Adiré d'Abeokuta. L'ex-président Olusegun Obasanjo avait aussi demandé aux autorités de mettre fin à l'importation des contrefaçons d'Adiré chinoises, mais rien n'a changé. Pour terminer, les faibles tendances en matière de création d'emplois et une réponse limitée à la pauvreté face à la croissance économique pourraient affecter les perspectives de croissance durable et inclusive de la Zambie, prévient la Banque mondiale. Cependant, les récentes résolutions de la dette et les réformes devraient stimuler les investissements du secteur privé et soutenir la stabilité macroéconomique.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Euro 2024 en Allemagne, toutes les décisions de la VAR seront expliquées en temps réel dans les stades.
Tout à fait, elles seront également expliquées aux téléspectateurs. Le responsable de la commission des arbitres au sein de l'UEFA a annoncé ce mercredi que les explications techniques des décisions seront diffusées sur les écrans géants et les commentateurs auront également accès à ces informations. Seul le capitaine pourra discuter des décisions avec l'arbitre et tout joueur contestant une décision sera sanctionné d'un carton jaune. Cette mesure vise à promouvoir le fair play et à améliorer l'image du football.
Mondial féminin des moins de 17 ans, victoire éclatante des Nigérianes à Monrovia.
Les Nigérianes ont dominé les Libériennes 4-1 à Monrovia lors du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA République Dominicaine 2024. Médaillées de bronze de la dernière édition, les Flamingos ont rapidement pris l'avantage avec des buts de Adidemi Moshoud, Peace Effiong et Harmony Chidi, suivi d'un quatrième par Blessing Ifetezue. Les Libériennes ont réduit l'écart en fin de match. Le match retour se tiendra le vendredi 14 juin au Nigeria.
Le Kenya l'emporte sur le terrain du Burundi.
Le Kenya s'est rapproché de la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA en République Dominicaine en battant le Burundi 3-0. Lors du dernier tour des éliminatoires africains, Lorna Faith a ouvert le score à la 11e minute, suivi d'un but de Marion Sereng juste avant la mi-temps. Suzanne Akoth a marqué le troisième but à la 71e minute, selon la victoire kényane, malgré les efforts offensifs des Burundaises en seconde période.
La Zambie a remporté la première manche.
Namut Chileche, 17 ans, brille lors de la victoire 3-1 de l'équipe de Carol Kanyemba contre le Maroc dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Elle marque un triplé, montrant sa vitesse et son talent offensif. La Zambie a une avance confortable malgré un but des Marocaines. La revanche aura lieu samedi pour déterminer le premier qualifié pour le mondial.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à Le Coup du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, la fête de la Tabaski sera célébrée le 17 juin. Les parcs à bétail poussent un peu partout dans la capitale, Bamako. Dans le parc éphémère de Sabalibougou, en commune 5 de Bamako, les vendeurs de moutons venus du centre et du nord du pays guettent l'arrivée des clients qui se font désirer pour le moment. Le reportage de notre correspondant dans la capitale malienne, Mohamed Danyoko.
Il est 10 heures passées de quelques 30 minutes quand Mamadou Mariko et sa petite famille arrivent au parc à bétail de Sabalibougou pour l'achat du mouton de Tabaski. Une heure plus tard, après avoir fait le tour de plusieurs vendeurs, il n'a toujours pas eu de mouton à la hauteur de sa bourse.
Oh, franchement, cette année, c'est un peu délicat. On voit que les moutons sont un peu plus chers que les précédentes années. Bon, voilà, mais on essaie avec les petits sous qu'on a. Voilà, on essaie de faire avec.
Si les années précédentes, c'est l'argument de la crise sécuritaire qui était avancé par les vendeurs pour expliquer le coût élevé des moutons pour ces touristes venus de Gossi dans la région de Tombouctou. Cette année, ce sont les conditions d'acheminement et le prix de l'aliment bétail qui affecte le prix des moutons.
L'insécurité, ça va, mais l'état de la route là qui est mauvais pour nous, c'est des déviations qu'on faisait. Il y a le véhicule pour venir, c'est pas facile. Très, très, très difficile pour qu'on vienne. C'est ça qui nous a fatigué un peu.
Pour Mahamadou Kassambara, vendeur venu de Korianze, dans la région de Mopti, en plus du prix des moutons, la récente grève des banques permet aussi d'expliquer la rareté des clients. Nous sommes arrivés et nous avons coïncidé avec la grève des banques. C'est vrai que la grève est finie, donc nous espérons voir les clients dans les jours à venir. Pour le moment, beaucoup de chefs de famille préfèrent attendre la dernière minute, avec tous les risques que cela peut comporter, mais aussi avec l'espoir que les prix vont baisser. Mohamed Danyoko, VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
À Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, des milliers de fidèles musulmans risquent de ne pas pouvoir sacrifier un mouton cette année pour la fête de la Tabaski. À moins d'une semaine de cette célébration, la rareté des moutons se fait sentir, d'autant plus que les voies de transport sont fermées, nécessitant des convois militaires escortés pour acheminer les moutons vers certaines régions. Le reportage d'Ali Dougoudraogo à Bobo-Dioulasso.
Nous sommes à Garbal, le marché du bétail de Bobo-Dioulasso. Jadis rempli de moutons à l'approche de Tabaski, il présente cette année un visage inhabituel. Les camions qui arrivent sont scrutés mais n'apportent aucune bonne nouvelle. Mahama Ouattara est commerçant de bétail depuis une trentaine d'années.
Et vraiment, il n'y a pas de moutons parce que les moutons ne viennent pas. Avec la crise, là, les moutons ne viennent pas. Les convois aussi, les moutons où les moutons quittent, là, les convois sont lents aussi. Une fois dans le mois, les convois viennent. Vraiment, les moutons ne viennent pas.
Conséquence, le prix du mouton est hors de portée des clients, explique Mahama Ouattara.
180 000 ces moutons-là. D'accord. Ça aussi, vous voyez le bélier, gros bélier là. On fait ça à 200 000. 200 000 ce bélier là. Voilà. Ça aussi, le coup noir là. Vous voyez, il est vraiment balèze. Voilà, vraiment, il est balèze. On peut faire ça aussi à 210 000. Vraiment, 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 le marché de bétail de moutons aujourd'hui, c'est un peu cher. C'est un peu cher, vraiment.
Cette situation pourrait être risquée pour les acheteurs de dernière minute, nous dit un autre commerçant, Amadou Gadiaga.
Si vous attendez à la dernière minute, vous venez, ça va manquer. Parce que toi, tu ne peux pas venir à la veille des fêtes. Celui que tu vas acheter, c'est lui-là. Il ne peut pas partir en bourse pour venir amener encore. Le petit qu'il a là, c'est ça qu'il va vendre. forcément, ça va manquer.
Youssouf Savadogo rentre chez lui les mains vides. Les prix sont trop élevés pour lui, mais il dit comprendre la situation.
Ça se comprend. Les éleveurs ont fui leur localité. C'est la cause de cette meurtre.
Nous l'avons trouvé assis dans son quartier au secteur 4. Alassane Nana, la cinquantaine, donne un conseil à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un mouton cette année.
Quand on n'a pas assez de moyens, ce n'est pas forcé. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de moutons, mais reconnaissons que les commerçants exagèrent.
Ici, c'est le carrefour, une place très bien connue des Bobolais, une place qui est transformée en marché de bétail à l'approche de l'Aïd El Kébir. Aujourd'hui, le constat est là. Il y a juste seulement moins de 10 moutons ici. Cela témoigne que la ville en manquera vraiment pour cette fête du mouton. Ali Douedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, de jeunes journalistes suscitent l'admiration pour leur résilience. Ils ont quitté la cité de Sake, où l'armée congolaise combat les rebelles du M23, pour installer leur radio dans un camp de déplacés dans des conditions difficiles. Leur objectif, informer et donner la parole aux déplacés. Davantage avec notre correspondant dans la région, Zanem Neti Zaidi.
Réfléchir, débattre et choisir des sujets d'actualité attractifs sur les quotidiens de ces jeunes journalistes déplacés qui, depuis quelques mois et contre toute attente, ont pu déplacer leur radio de la cité des Sake, où se poursuivent les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 vers les camps de déplacés de Lushagala. L'objectif premier de la radio est de faire entendre la voix des déplacés. Faustin Bahati, rédacteur en chef de la radio Sake FM.
On ne pouvait pas vraiment manquer un petit papier qui va décrire les conditions ou la situation des déplacés dans les camps. Les auditeurs nous ont appelés pour nous parler de leur situation. Et nous avions cherché également alerter les autorités à travers notre journal.
Message de la deuxième phase de la campagne.
Sensibiliser à la non-violence contre les femmes dans les camps des déplacés est également l'objectif de la radio, ce qui tient à cœur Eugénie Mouressi, une jeune journaliste de 19 ans. Actuellement déplacée, elle dit en avoir assez de l'indifférence de la communauté à l'égard du sort des femmes déplacées.
J'ai l'habitude de faire ici dans les cas des déplacés. Souvent je passe, je récolte des informations concernant les femmes, concernant des viols, questions de violence, pour aller les diffuser à la radio, voir comment les autorités vont trouver une solution, comment les déplacés peuvent regagner leurs milieux.
Travailler sans fond et se contenter des petites contributions des journalistes qui, de surcroît, sont déplacés et privés des moyens, compromet l'évolution du travail. Ismaël Matungulu est le directeur de la radio Sake FM.
À Sake, en tout cas, on a vandalisé les studios de la radio communautaire Sake FM et tous les matériels nécessaires de la radio qu'on avait pillé. Ici, nous utilisons l'émetteur, il y a également un petit mixeur, il y a un dictaphone, il y a aussi une seule machine.
Radio Sake FM couvre la plupart des camps des déplacés autour des Goma et une grande partie de la ville de Goma capte également le signal de la radio. En raison du manque de carburant, la station diffuse 10 heures par jour, 5 heures le matin et 5 heures le soir. La radio compte étendre sa zone de couverture dans un proche avenir. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le sommet du G7 débute demain jeudi en Italie. Le président Joe Biden va tenter d'obtenir un accord sur l'utilisation des intérêts provenant des avoirs russes gelés pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Il va aussi plaider en faveur de l'unité pour relever les défis mondiaux comme le financement des infrastructures, l'intelligence artificielle et la surcapacité chinoise en matière de technologie verte. Toutefois, comme le rapporte Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, un glissement à droite du paysage politique européen pourrait compliquer ces projets. Le récit avec Rosine Monezero.
Les forces russes progressent sur le champ de bataille en Ukraine et la lassitude des contribuables américains et européens à l'égard du financement de la guerre s'installe. C'est dans ce contexte que les États-Unis veulent que le groupe des sept principales nations industrialisées accorde à Kiev un prêt de 50 milliards de dollars. Ce prêt serait remboursé grâce aux intérêts des quelque 280 milliards de dollars d'actifs russes bloqués dans des institutions financières occidentales. Le président Joe Biden s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris la semaine dernière.
Les États-Unis sont à vos côtés. Vous êtes le rempart contre l'agression en cours.
Le mois dernier, M. Biden a quadruplé les droits de douane sur les véhicules électriques chinois et d'autres secteurs. Maintenant, il souhaite que le G7 s'attaque à la pratique de Pékin, consistant à inonder les marchés mondiaux d'exportation bon marché. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain.
Il est essentiel que nous et les pays de plus en plus nombreux qui ont identifié cette question comme une préoccupation présentions un front clair et uni.
Toutefois, les victoires des partis d'extrême droite lors des élections européennes ont affaibli le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ajoutant de l'incertitude à la position du G7 sur la Russie et la Chine. Ursula von der Leyen se bat pour rester à la tête de la Commission européenne. Si elle remporte un nouveau mandat, l'Europe devrait rester ferme à l'égard de la Russie et de la Chine. Liana Fix, chargée de mission pour l'Europe au Conseil des relations extérieures, a déclaré via Skype.
Mais les jokers sont les élections françaises, les élections surprises qu'Emmanuel Macron a annoncées après sa défaite aux élections européennes. Si l'extrême droite entre au gouvernement en France, nous aurons des difficultés non seulement à soutenir l'Ukraine, mais aussi à faire face à la Chine.
La première ministre italienne, Giorgia Meloni, hôte du G7, a invité le pape François à mettre en avant l'appel de Rome pour l'éthique dans l'intelligence artificielle. Cette invitation inattendue du pape François témoigne de l'intérêt croissant du Vatican pour l'intelligence artificielle que l'Église veut encourager tout en alertant sur les risques de dérive. Réduire l'immigration vers l'Europe en investissant en Afrique étant l'autre thème de la présidence du G7 de Madame Meloni. L'initiative s'aligne sur le partenariat pour l'infrastructure et l'investissement du G7. L'objectif est de mobiliser 600 milliards de dollars de financement privé pour les infrastructures d'ici 2027 comme alternative à l'initiative chinoise appelée la ceinture et la route. La victoire du parti d'extrême droite de Mme Meloni aux élections européennes a consolidé son pouvoir. Giorgia Meloni, première ministre italienne.
Je suis fière que cette nation se présente au G7 en Europe avec le gouvernement le plus fort de tous.
Joe Biden arrive au sommet du G7 en Italie, mais l'ombre de son prédécesseur, Donald Trump, va planer sur ses rencontres du 13 au 15 juin. Une victoire de Donald Trump et le retour de son thème favori, l'Amérique d'abord, inquiète la majorité des dirigeants du G7. Joe Biden en est conscient et ne se gêne pas de le répéter.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine, donc, c'est ton genre super fast, super sonique, super rapidos. Vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les tout, dont RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703-350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique, super rapidos. Jobless.
Yeah.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.